le superintendant Scott Marlowe remonta le col de son imperméable. Ce début de printemps londonien était frais et humide. Depuis plusieurs jours, on battait des records de smog. Par bonheur, en ce vendredi, la pluie avait cessé, laissant place à un vent glacial qui rendait la tour de Londres encore plus sinistre qu'à l'ordinaire. Le superintendant remplissait une mission protocolaire qu'il avait obtenue de Scotland Yard après de longues et patientes négociations administratives. Représenter la police de Sa Gracieuse Majesté lors de la cérémonie d'installation du nouveau gouverneur de la tour, Lord Henry Fallowfield. Un grand et noble personnage de 65 ans, riche propriétaire terrien, bardé de décorations. Précédé d'une réputation d'homme de fer, il avait annoncé de profondes réformes pour redonner à la tour de Londres son faste d'antan. Pour l'heure, Lord Henry Fallowfield, raide comme une statue, faisait face depuis plus d'une heure aux Yeomen Warders, les hallebardiers de la tour, formant un cercle en présence d'un détachement militaire. Coiffé d'un curieux chapeau noir, vêtu d'une tunique rouge, le col enserré dans une sorte de fraise d'un blanc immaculé, portant gants blancs et bas rouges, les hallebardiers n'étaient pas peu fiers d'appartenir à un corps d'élite fondé par Henri VII. Chargé de guider les visiteurs et d'assurer la sécurité de la tour, ils maintenaient rigoureusement droite leur hallebarde, aux manches noires et à la pointe dorée, ornée d'un pompon de même couleur. Le spectacle avait de quoi impressionner le plus blasé. La pelouse de Tower Green, sur laquelle se déroulait la scène, était située entre le corps de bâtiment comprenant la maison de la reine, résidence du gouverneur et du lieutenant de la tour, et l'imposante tour blanche aux quatre tourelles. Ce bâtiment, le plus ancien et le plus élevé de cette cité dans la cité que constituait l'ensemble architectural de la tour de Londres, était enserré à l'intérieur d'une muraille. Sur ces murs froids et austères, pesait le poids d'un lourd passé d'exécution capitale, à peine atténué par la présence des fameux bijoux de la couronne qui ajoutaient une note d'étrange beauté à un décor angoissant. Des écharpes de brume recouvraient la Tamise, noyant dans de grises ténèbres le quai de la tour et la porte des traîtres où abordaient jadis les bateaux amenant les condamnés. Le superintendant Marlowe se trouvait dans la rangée d'invités située entre la pelouse et la tour sanglante. Position privilégiée s'il n'avait été placé derrière un personnage grand et maigre qui le dépassait d'au moins 20 centimètres. Aussi l'homme du yard ne voyait-il presque rien de la cérémonie. Il avait subi, comme les autres invités, les discours du grand chambellan, Sir Timothy Raven, et du lieutenant de la tour, Patrick Holborn, chef des Yeomen, qui avait accueilli le nouveau gouverneur avec des formules empesées. « Vous n'avez pas aperçu la reine ?» demanda à voix basse Scott Marlowe à l'individu qui lui bouchait la vue. Le superintendant éprouvait une passion profonde pour Sa Majesté Élisabeth II. C'est pourquoi il avait tant désiré assister à cet ancien rituel que la souveraine honorerait certainement de sa présence. L'homme se retourna dédaigneux. « Docteur Richard Matthews, se présenta-t-il. Sa Majesté est grippée, vous devriez mieux vous informer. De toute façon, elle ne vient jamais. » Scott Marlowe fut si troublé par cette terrible révélation qu'il oublia de se présenter à son tour. Il n'avait pas lu de quotidien depuis plusieurs jours, se contentant de l'actualité du yard, davantage nourri par les morts violentes et les méfaits en tout genre que par le refroidissement d'Élisabeth II. Sur la pelouse, le grand chambellan, Sir Timothy Raven, avait repris la parole, salué par l'envol d'un des corbeaux géants de la tour de Londres, à qui l'on assurait le gîte et le couvert, comme à de loyaux et fidèles soldats. Sir Timothy, hautain, raide et très élégant dans son costume rouge protégé par une cape à l'ancienne, était l'un des plus purs produits de l'aristocratie britannique et de l'éducation oxfordienne. Arborant l'une des plus célèbres moustaches du tout Londres, il rappela au nouveau gouverneur que sa charge avait été accordée pour la première fois par Guillaume le Conquérant à la bataille d'Hastings. Il présenta ensuite à Lord Henry Fallowfield les patentes royales portant le grand sceau et conférant le privilège d'audience avec le souverain régnant. « Quelle chance il a !» soupira Scott Marlowe, qui, n'ayant pas accompli une brillante carrière militaire, n'avait aucune possibilité de devenir gouverneur de la tour et d'obtenir ainsi un accès direct à la cour. Une série de croassements fit sursauter le superintendant. Un autre corbeau venait de se poser sur l'un des créneaux de la tour sanglante. À côté du policier, une jolie jeune femme, Jane Portman, avait également frissonné. « Sale bête !» commenta Scott Marlowe. « Ces corbeaux sont très indépendants, » dit-elle. « Nous les respectons tous ici. » Vêtue d'une robe grise terne et banale, contrastant avec les toilettes recherchées de la plupart des invités, Jane Portman, aux yeux vert clair, remplissait la fonction de conservatrice des collections historiques de la tour. Le grand chambellan se dirigea vers la maison de la reine où, des mains du lieutenant, il reçut les clés, symbole du pouvoir attribué au nouveau gouverneur. Ce dernier conservait une attitude d'une parfaite dignité qui forçait l'admiration des spectateurs, au premier rang desquels se tenait son épouse, Lady Anne Fallowfield, une brune de 40 ans, au visage anguleux et volontaire. Elle participait à la joie contenue et à la fierté légitime de l'homme qu'elle avait épousé 10 ans plus tôt, causant un certain scandale que sa classe naturelle avait su réduire à néant. « Cette cérémonie est belle comme un joyau », déclara à gauche de Scott Marlowe un petit homme âgé coiffé d'un chapeau pied de poule et portant de fortes lunettes d'écaille. Ellie Bronstein, secrétaire particulier de Lord Fallowfield, était si ravi d'avoir été invité qu'il se faisait encore plus discret qu'à l'ordinaire. Plaçant la main sur sa bouche, il regretta aussitôt d'avoir laissé deviner ainsi ses sentiments. Scott Marlowe, toujours masqué par le dos du docteur Richard Matthews, se pencha de côté pour voir Patrick Holborn, le lieutenant de la tour, lire une déclaration de la reine Elisabeth II, demandant au nouveau gouverneur d'assurer, de maintenir, d'exercer et de jouir de ses fonctions. Patrick Holborn avait belle allure. Élancé, robuste, la chevelure d'un roux agressif, il incarnait à merveille l'autorité militaire pétrie par des siècles de gloire et de courage. Scott Marlowe remarqua la présence d'une femme d'un certain âge, petite, boulotte, vêtue d'une robe à fleurs mauves. Elle ôtait ses lunettes pour essuyer une larme. Miss Musettis Brazennose, secrétaire en chef de la tour, ne pouvait contenir son émotion. La cérémonie était si réussie, si poignante. Bien qu'ignorant tout des compétitions, Musettis Brazennose pleurait de même à l'arrivée du derby d'Epsom ou à la remise du trophée au vainqueur de Wimbledon. Elle avait une passion pour les célébrités, se réjouissant ou souffrant avec elle. Le moment décisif arrivait. Le chambellan, portant les clés comme s'il s'agissait du plus précieux des bijoux de la couronne, se dirigea vers Lord Henry Fallowfield. Le ciel n'était que nuage noir, s'abaissant vers la terre et menaçant de rejoindre le banc de brume qui stagnait sur la Tamise. « Tremblez, tremblez !» proclama soudain une voix grave, haché, venant du ciel. L'heure du spectre reviendra, elle revient toujours. Chacun leva la tête vers la tour sanglante, du sommet de laquelle un vieux yeoman à l'impressionnante carrure venait de lancer sa prophétie, dont les termes étaient restés inaudibles. C'est le gardien des corbeaux, dit Musettis Brazennose, saisi de frayeur. Les invités se bousculèrent, se marchèrent sur les pieds. Le grand chambellan et Lord Henry Fallowfield demeurèrent immobiles comme si le temps s'était arrêté. Leur calme imperturbable et la disparition du jeteur de sorts suffirent à ramener le flegme adéquat dans l'assistance.